chaque après-midi, 2 heures placées sous le signe du savoir, mais aussi de la drôlerie, Mathieu.
Pourquoi vous susurrez, Stéphane?
Parce qu'il y a Clémentine qui est entrée dans le studio et la température a grimpé soudainement.
Caliente, caliente. Voici effectivement Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais vous nous parlez d'une histoire un petit peu sexuelle aujourd'hui.
La température a augmenté dans le studio. Heureusement que je suis payé pour entendre ces âneries. Hein.
Oui, et cher, Mathieu.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui, lui, s'est complètement dégonflé alors qu'il aurait pu prendre le pouvoir. Hein. C'est Boulanger, bien sûr. Et attention, parce que Boulanger, on garde le souvenir, oui, du champion de l'occasion manquée. Mais cet homme était tout sauf un lâche. Il a été blessé plusieurs fois au combat. Il a eu la Légion d'honneur à 22 ans, après avoir reçu une balle dans la poitrine pendant les guerres d'Italie. Il reçoit un coup de lance en Cochinchine, hein, façon loulou à Istélidzi chez les Zoulous. Ça a quand même de la gueule aussi. Balle dans l'épaule à Champigny pendant la guerre franco-prussienne. Blessure au coup de gauche pendant le siège de Paris. Donc c'est un homme très viril et qui a vraiment du courage face au feu. Alors, dans ces années-là, les années 1880, l'armée française est au fait de sa popularité parce que on a perdu l'Alsace-Lorraine depuis 16 ans, oui. Donc tout le monde rêve d'une revanche et on compte sur l'armée pour prendre cette revanche. Ben Boulanger va être nommé directeur de l'infanterie en 1882, puis ministre de la guerre en 1886. Et comme tel, il prend toutes sortes de mesures qui, à l'époque, maintenant ça nous fait sourire, mais enfin, à l'époque, l'armée en particulier a apprécié. Alors, vous vous souvenez, on cite un peu toujours les mêmes parce que c'est vrai que c'est pittoresque. Peinture des guérites en tricolore, introduction de la morue dans l'ordinaire du troupier, autorisation pour les sous-officiers de porter la barbe. Et de sortir au théâtre, ce qui était interdit. Introduction des vélocipèdes dans l'armée. Remplacement de la gamelle par des assiettes et des paillasses par des sommiers. Ça n'est quand même pas rien pour le confort du troupier quotidien. Plus sérieusement, Boulanger réorganise l'enseignement militaire et la surveillance militaire des frontières. Et puis c'est surtout lui qui a fait changer le fusil qu'utilisait l'armée française, qui était un fusil à un coup qui était complètement minable face au Moser germanique. Et donc, il a imposé le fusil gras, qui était un fusil à 10 coups. Vous me regardez comme une vache regardant passer le TGV, mais je vous assure, c'est super important à l'époque, Mathieu, le changement de fusil grâce à Boulanger.
Et Boulanger, fusil à 2 coups alors, on est passé du fusil à 1 coup au fusil à 2 coups.
Fusil à 10 coups.
À 10 coups, d'un coup, on est passé de 1 à 10.
10 coups, 10 coups. Le fusil Lebel qui a remplacé le fusil gras. Alors, il se révèle, Boulanger, à la population parisienne au moment d'un 14 juillet 1886. Il est là, c'est dans une revue militaire à Longchamp, sur un cheval noir. Il est magnifique, il plastronne, mais quel prestance. Oui, le voilà, c'est bien lui, le futur sauveur de la France. Et aux yeux de tous, il devient le général revanche. En quelques mois, il devient un phénomène politique de premier plan.
Est-ce que je peux vous interrompre, pardon, pour vous poser une question? Quelles étaient ses convictions? Est-ce qu'il était profondément républicain?
Mais en fait, il ne le savait pas.
Il ne le savait pas. C'est comme c'était... il était financé par la duchesse d'Uzès.
Bien sûr, mais lui-même, c'est plutôt un phénomène qui monte. Et puis lui-même ne sait pas où il veut aller. On le pousse à se présenter aux élections. Il le fait. Et alors, son slogan le montre bien. Son slogan, c'est vive la République honnête, vive la France. C'est difficile de ne pas être d'accord. C'est tout ça, le Boulanger. C'est un mouvement politique qui sui generis, il sort de nulle part, comme la génération spontanée, et qui ne sait pas très exactement ce qu'il demande, mais qui du coup va cristalliser tous les mécontentements. Mmh. On est dans une période de scandale, d'où les scandales de la Troisième République.
Il y aura le
scandale des décorations. Donc la République est décrédibilisée, et lui, il arrive en disant « Vive la République honnête, et moi je veux vaincre l'Allemagne ». Bien sûr, il a du succès. Alors, pourquoi ? Pour balayer le régime, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Un roi, un empereur, un président de la République, il n'en a aucune idée. On verra bien. Hein. Donc, premier succès électoral, suivi d'un second. Et tout Paris, ça devait être quelque chose de très étrange. Parce que tout Paris chante la boulangère. Il y a une véritable hystérie collective autour de Boulanger. Et le 27 janvier au soir, quand on attend les résultats électoraux à Paris, tous les partisans de Boulanger sont autour de chez Durand, près de la place de la Madeleine. La foule arrive en masse et de plus en plus nombreuses, réclame son champion. À l'Élysée, c'est Boulanger qu'il nous faut, ça y est, enfin la République va tomber comme un fruit mûr. Les résultats tombent le soir, à l'exception d'un seul arrondissement de Paris, tous les arrondissements ont donné la majorité à Boulanger. dans les rangs gouvernementaux, c'est la panique. On convoque le Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, à 7 minutes, Boulanger est au sommet de sa gloire. Un mot de lui et tout peut basculer. Face à lui, rien. Personne, une république chancelante. Ses amis le supplient de marcher sur l'Élysée, à la tête de cette foule en liesse. C'est l'heure, c'est le moment. Le pouvoir va lui tomber entre les mains comme un fruit mûr. Alors lui, il hésite. Et puis, fidèle à son habitude, lorsqu'il est dans l'expectative, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout en plan. Il se précipite chez sa maîtresse, Marguerite de Bonnemain. Et puis, le 31 janvier, il quitte Paris avec elle. Alors, toute la France retient son souffle, ses partisans attendent ses ordres, et lui, il roucoule à Royan avec Marguerite de Bonnemain, sa maîtresse, à l'hôtel des Marronniers. Bon, il pense que sa présence n'est pas vraiment utile à Paris. Il s'imagine que les élections le porteront au pouvoir en septembre prochain. Ses partisans, évidemment, sont absolument effondrés. Et dans les semaines qui suivent, comme à Paris, le gouvernement fait courir le bruit qu'on va l'arrêter. Boulanger s'enfuit à Londres, puis à Bruxelles, et là, il va rejoindre sa chère Marguerite. Et sa chère Marguerite, elle souffre d'une phtisie à laquelle elle ne survivra pas. Donc, 2 mois après sa mort, le général Boulanger se rend sur sa tombe au cimetière d'Ixelles à Bruxelles et il se tire une balle dans la tête. Il est enterré dans la même tombe que sa maîtresse. Sur la pierre ont été gravés ces mots « Georges ». 29 avril 1837, 30 septembre 1891, ai-je bien pu vivre 2 mois et demi sans toi ? Tu parles d'un sauveur de la France.
Hein. Ah bah oui, mais l'amour a été le plus fort, c'est quand même plus beau encore.
Ah, vous êtes comme
c'est
ça.
C'est assez magnifique. Non, Stéphane, vous trouvez ça minable ou vous trouvez ça magnifique ? Il s'est dérobé à son destin politique.
Là où je trouve qu'il est bien, c'est qu'il a attendu que les élections le portent au pouvoir.
Ben oui, c'était
il n'a
plutôt...
pas voulu faire un coup d'État.
C'est vrai, il était légitimiste. Il évoquait l'horreur qu'avait eue son propre père du coup d'État de Napoléon et de Napoléon III de Napoléon en 1852.
Oui, le 2 décembre.
Donc il était légitimiste et il ne savait pas vraiment... Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait lui-même. Il voulait le pouvoir, mais qu'en faire ?
D'après ce que vous en avez raconté, mes souvenirs de Boulanger étaient assez lointains de l'université. Plutôt un type sympathique, ce Boulanger, vous voyez, qui avait du cœur et ma foi...
Oui, un bel homme. Et donc, je le répète, surtout pas un lâche.
Ah oui ?
Voilà.
C'est beau. Alors, Clémentine, vous ne bougez pas d'un